Alors, on vous a parlé de votre rôle de femme, de jeune fille, d'épouse. Et puis, il y a une question qui est importante, que vous soyez mère ou non, c'est celle de l'école, des écoles. Alors, je vais vous en parler pour vous rappeler quelques principes qui sont ceux de l'Église, tout simplement. Ce ne sont pas les principes d'un prêtre d'une école de la Fraternité Saint-Pédis, ce sont les principes de l'Église. Et il faut bien comprendre cette différence. Je ne prêche pas pour l'école Saint-Bernard, même si je ne m'interdirais pas de le faire éventuellement, en soi. Mais je ne suis pas là pour ça. En revanche, il faut que vous ayez, chargé d'enfants ou pas, ça peut être des petits-enfants, il faut que chacune d'entre vous ayez une vision claire de ces choses-là. La question est trop grave pour admettre un flou ou ce que je disais hier, c'est-à-dire on s'arrange sur les principes, on refait un petit peu ces principes soi-même. Vous vous souvenez peut-être du thème du pèlerinage de l'an dernier, qui était le pèlerinage de Chartres, « Sauvons l'enfant », c'était une formule de Pie XII. Alors j'intitulerai cette petite instruction « Sauvons l'enfant par l'école ». On sauve, quand on parle de sauver quelqu'un ou quelque chose, cela signifie qu'il y a un danger, il y a une mise en danger de cette personne ou de cette chose. Alors l'enfant, puisqu'il faut le sauver, est-il en danger? Quand on a posé la question et quand on connaît un petit peu la vie contemporaine, on voit vite que c'est vrai, l'enfant est en danger. L'enfant, sachez-le, et vous le savez bien, est l'enjeu à la fois de la société civile et en même temps de l'Église, puisqu'il est membre des deux, si l'enfant est baptisé. L'enjeu de la société civile, parce que, et même si elle est antichrétienne, et on pourrait dire, quel que soit le type de société, elle a toujours veillé à contrôler l'enfant, parce qu'elle sait que l'enfant, c'est l'avenir de la société, de la dite société. Donc c'est un enjeu très important, et tous les chefs d'État, tous les systèmes politiques, bons ou mauvais, l'ont toujours compris, et donc se sont efforcés d'assurer le contrôle de l'enfance. Et on le voit très bien, dans la société dans laquelle nous sommes, de type rousseauiste, de type naturaliste, où l'enfant, où Dieu est évacué, le surnaturel est évacué, et l'enfant est à prendre dès le plus jeune âge pour que cette société lui donne une forme qu'elle souhaite lui donner, de citoyen selon un modèle précis. Je ne développe pas ce thème, ce n'est pas mon objet, mais et cette forme, elle va lui donner le plus tôt possible, en sachant qu'un enfant est d'autant plus malléable, dans un sens comme dans un autre, encore une fois. Et puis l'Église, bien entendu, a soin de l'enfant, alors ce n'est pas sous le même angle, puisque c'est sa charge de conduire les enfants de Dieu à Dieu. Donc là, bien sûr, c'est pour leur bien, c'est pour leur éternité. Et ce soin existe aussi dès le plus jeune âge. D'où la nécessité de baptiser les enfants le plus tôt possible, après la naissance. D'où la nécessité de les éduquer. Et donc, le thème de cette école, pour l'enfant, est bien sûr la phase suivante. Car je le rappelle, je le précise, les parents qui se sont mariés, se sont engagés, dès lors qu'ils ont un enfant, en le baptisant, à donc engendrer les enfants et les éduquer, c'est-à-dire pourvoir à tous les besoins de cet enfant. Or, les besoins de cet enfant sont à la fois d'ordre physique, matériel, intellectuel, mais aussi spirituel, surnaturel. On ne dissocie pas les deux et on ne les met pas de côté successivement, en disant ben, « pour l'instant, l'important, c'est le biberon, c'est le sommeil, etc. » Et puis, un jour, quand il aura le temps et quand il y réfléchira, eh bien, il pensera peut-être à chercher une religion. Vous voyez, là, on est déjà dans une perspective complètement relativiste et complètement naturaliste, qui fait qu'on a sevré l'enfant qui avait besoin de son créateur, et on ne l'a pas sevré de lait et de nourriture, bien entendu. Alors, il faut se rappeler donc ce double enjeu. L'enfant est au cœur d'un double enjeu, celui de la société civile et de l'Église. Et l'Église met tous ses efforts à protéger l'enfant. Elle le protège parce que c'est de lui que se formeront d'autres familles chrétiennes. C'est de lui aussi que viendra peut-être une vocation religieuse ou sacerdotale. Et vous le savez certainement, un enfant abîmé par la vie, par ses propres péchés certainement, mais aussi par la vie, par le contexte dans lequel il vit, peut être abîmé de façon définitive. Je ne dis pas qu'il est damné, attention, hein, c'est deux choses différentes, mais il est abîmé. Ce n'est pas la même chose. On peut être abîmé et arriver au ciel. C'est la grâce de Dieu, bien sûr. Mais être abîmé peut empêcher un bon mariage, peut empêcher une bonne vocation, ou une vocation tout court. Donc, il faut comprendre cela pour que l'enfant soit aussi, bien sûr, l'objet de vos soins, soit les vôtres, bien entendu, soit ceux dont vous occupez, certainement les enseignants parmi vous. Et il y a donc cette mission qui est donnée aux parents, même aux grands-parents maintenant, les familles étant souvent abîmées. C'est le rôle aussi des parrains et marraines. Mais il y a souvent un devoir peut-être plus contemporain que les grands-parents s'occupent de leurs petits-enfants si les parents sont déficients sur notamment l'éducation religieuse. Alors, comment peut-on sauver l'enfant par l'école? Voilà la question à laquelle je voudrais répondre pour que les principes soient clairs. On sauve en arrachant un danger, je l'ai dit. Alors, quels sont ces dangers que l'enfant court? Eh bien, pour faire simple dans des termes un peu compliqués, je dirais que ce sont tous les obstacles, ce qui donc qui constitue un danger, tous les obstacles à l'obtention de ce dont il a besoin. Ou bien, ce sont les privations de ce à quoi il a droit. Donc, je répète, tous les obstacles qui s'opposent à l'obtention dont il a besoin. Donc on va voir ce dont a besoin un enfant. Ou bien la privation, ce qui revient au même au résultat, de ce dont il a droit. C'est-à-dire qu'on lui empêchera, on lui supprimera ce à quoi il avait droit, ou bien on l'empêche de l'avoir. Alors, avant de répondre directement, je voudrais rappeler ce qu'est un enfant. C'est une créature du bon Dieu, certes. C'est un être humain, une personne humaine, et qui a donc aussi une nature rationnelle. Parce qu'elle a une nature rationnelle, elle a donc une intelligence et une volonté. Cet enfant a une intelligence et une volonté, et donc une liberté. Mais tout cela se développe progressivement. Et donc a besoin de tuteurs, qui s'appellent des parents. Les enfants appartiennent à leurs parents, ils n'appartiennent pas à l'État. Et donc, ils sont entièrement livrés à leurs parents, qui doivent, c'est leur devoir de parents, les éduquer, les conduire hors d'eux, comme le dit l'étymologie du mot « educere », donc c'est se conduire hors d'eux, mais conduire hors de quoi ? Eh bien, hors de la nature brute et la nature blessée de l'enfant, blessée par le péché originel. Le conduire hors de cet égoïsme propre à tout enfant blessé par le péché originel. Et ce sont donc les parents qui vont le guider pour former sa volonté, son intelligence, former sa volonté et lui apprendre à trouver, à découvrir et à se conduire jusqu'à sa fin ultime qui est Dieu. Alors cette créature rationnelle, faite à l'image de Dieu et appelée à la vie par Dieu avec la coopération des parents, eh bien, ne l'oublions pas, est marqué par ce péché originel. J'y reviens. Vous le savez certainement, la plupart des systèmes d'éducation, qui sont très variés, mais en fait qui peuvent se classer assez rapidement en deux grandes sortes, il y a ceux qui reconnaissent que l'enfant ne naît pas naturellement bon, et puis ceux qui reconnaissent, qui croient que l'enfant naît naturellement bon. Et ça détermine du tout au tout la façon d'enseigner et d'éduquer les enfants. Or, nous vivons dans des systèmes pédagogiques qui ont tous ce point commun, que l'enfant n'est pas marqué par le péché originel et qu'il peut s'éduquer tout seul, puisqu'il est naturellement bon, ça se conçoit, si ça c'est vrai. C'est vrai que si un enfant naît naturellement bon, il y a de grandes chances pour qu'il pousse bien tout seul, c'est évident. Mais c'est faux. Et puisque c'est faux, on ne peut pas donner ses enfants à un système pédagogique qui part sur des principes aussi faux, à la fois philosophiques et théologiques, puisque bien sûr c'est la révélation qui nous fait comprendre, qui nous fait connaître le péché originel. Mais j'allais dire, il y a le bon sens aussi, simplement philosophique, qui peut nous faire observer en tout cas les conséquences d'une défaillance régulière, récurrente chez les enfants. Ils ne sont pas franchement naturellement bons. Et si on ne les éduque pas, si on ne les forme pas, eh bien, on en voit les conséquences assez facilement. Donc, cette créature rationnelle qui est un enfant est marquée par le péché originel, et les conséquences sont, c'est vrai, diverses selon les individus. Donc, mais elles sont, il y a toujours les faiblesses, il y a toujours les blessures du péché originel, blessure de l'intelligence. Donc, quant à l'ignorance, on en sait quelque chose, on a dû apprendre un grand nombre de choses. Des mauvaises tendances, donc, quant à la volonté, qui est inclinée plutôt à la satisfaction d'elle-même, donc aux dépens de la volonté de toute autorité. Il y a toujours, on pourrait dire, une certaine rébellion naturelle de la volonté qui veut agir de façon personnelle, propre. Difficulté, donc, de faire le bien. C'est plus facile de descendre que de monter, c'est plus facile de se laisser couler sur l'eau que de remonter en ramant. Eh bien, ce sont les conséquences du péché originel, et on les observe à des degrés divers, mais on les observe toujours chez tous les enfants. Et d'autre part, pour tous les enfants qui naissent, il y a ce qui leur arrive de plus grave dès la naissance, c'est le premier drame de leur vie, c'est qu'ils sont privés de la grâce de Dieu. Donc ils sont en état de révolte, d'inimitié envers le Dieu qui pourtant leur a donné vie. Alors, voilà déjà le point de départ. Et si on n'a pas cette perspective, à la fois philosophique, religieuse, en tout cas théologique, religieuse, si on reste sur une espèce de bon sentiment, en voyant comme il est mignon ou comme elle est mignonne, et ce qui est vrai par ailleurs, c'est pas parce qu'il est dans le péché originel qu'il ressemble à un démon, etc. Donc c'est pas, il ne s'agit pas de cela. Mais on ne comprend rien à l'éducation, au rôle qu'on doit avoir sur cet enfant. Si on n'a pas perçu ces deux grands besoins, ces privations, c'est le fait qu'il est blessé et qu'il est laissé privé de la grâce, alors on va déjà mal commencer le rapport d'adulte à cet enfant. Je parle d'adulte en général pour bien montrer que ce soit parent ou pas parent. Et même grandi, cet enfant, il est toujours, alors il est baptisé d'une façon générale, mais il est toujours soumis à ces blessures du péché originel. Donc si on les nie, même dans leurs conséquences, on ne l'éduquera pas bien, puisqu'on aura omis la source de ces problèmes. Donc il faut bien se rappeler cela pour que l'éducation dont vous êtes peut-être responsable soit en connaissance de cause de cette personne qui est un enfant et qui est devant vous et que vous avez à conduire à Dieu. Toute créature rationnelle est créée à l'image de Dieu, et donc elle a, comme vous, pour principe et fondement, pour reprendre les termes de saint Ignace, eh bien de connaître, de louer, d'honorer et de servir Dieu, et ainsi de sauver son âme. Donc l'éducation que vous avez à assurer sur cet enfant doit avoir pour but le but de l'enfant, qui est donc sa finalité, qui est la même que la vôtre, de sauver son âme et de glorifier Dieu. Alors, si on place à ce niveau-là l'éducation, on est sûr de ne pas se tromper. Ça ne veut pas dire qu'on aura des résultats à tous les coups, qu'il n'y aura pas d'âmes qui seront encore blessées, il y aura peut-être des ratés, mais c'est évidemment parce que c'est une âme libre. Donc ne vous effrayez pas d'avoir fait tout ce qui vous était demandé de faire, et puis d'avoir parfois des enfants qui se trompent de chemin, qui errent. Alors du coup, on se dit, mais on a forcément raté quelque chose. Pas forcément, c'est un être libre. Donc il a, lui aussi, dès lors qu'il a l'âge de raison, la correspondance ou la non-correspondance à la grâce. Alors souvent, il y a toujours quelque chose qu'on a mal fait, mais enfin, c'est l'essentiel, c'est d'avoir compris que l'enfant qu'on a eu, ou dont on a eu à s'occuper, devait être conduit à Dieu. Autre point sur cet enfant, c'est que, comme tout homme, il est, comme le dit Aristote, un animal social. C'est-à-dire qu'il est fait pour la société et il ne vit qu'en société. Cette société dans laquelle il grandit, ça s'appelle une famille. Dans laquelle il naît et il grandit, ça s'appelle une famille. Et automatiquement, son appartenance à une famille le fait appartenir en même temps à une société civile. Et on a vu aussi qu'il y a bien sûr par le baptême l'Église. Et donc, ce sont les parents qui vont être responsables de l'obtention des moyens dont il a besoin pour atteindre sa fin, qu'elle soit naturelle dans la nourriture, l'habillement, le logement, mais aussi dans son intelligence, dans le développement de sa sensibilité, dans le développement donc de ses capacités que Dieu a mises dans sa nature pour obtenir cette fin unique à laquelle nous nous référons toujours, sauver son âme, glorifier Dieu. S'il a une intelligence, c'est pour connaître Dieu. S'il a une volonté, c'est pour faire le bien qui le mène à Dieu et qui est fait dans la grâce de Dieu. Tout est au service de cette fin et rien ne peut lui échapper. Alors c'est plus ou moins direct, on est bien d'accord, mais c'est ordonné à cette fin. De même qu'un jour il aura à choisir un métier ou un état de vie, c'est toujours pour cette fin. Et il faudra qu'il passe des concours, des examens, etc., qui seront ordonnés à l'obtention de cette profession, cet emploi. Ce sera ultimement parce qu'il aura pensé et jugé bon que c'est par ce métier, par cet état de vie, qu'il assurera sa vie ici-bas et donc qu'il lui permettra d'atteindre sa fin ultime. Le principe et fondement de Saint Ignace, que vous connaissez pour celles d'entre vous qui ont fait déjà des retraites, est vraiment la ligne de mire, le fil conducteur de notre vie à tous, et en même temps, on le voit tout spécialement, lorsqu'on nous avons charge d'enfants, ça doit être aussi la ligne que nous devons lui transmettre, que nous devons lui apprendre à redécouvrir. Il l'a pas à la naissance, ce principe, il l'a parce qu'il est sur Terre, bien sûr, extérieurement, il l'a dès sa naissance, mais il n'en est pas conscience. Il faut le lui indiquer, il faut le lui enseigner. Et cet enfant qui est membre d'une société, qui s'appelle la famille dans un premier temps et qui s'élargit à une société en même temps, eh bien, la société lui apportera le bien dont il a besoin et en même temps, lui contribuera au bien de cette société. L'enfant prend sa place dans la famille, il la garde, il sera toujours l'enfant par rapport à ses parents, mais il prendra sa place au sens où il participera de plus en plus au bien commun de la famille, d'où la nécessité de donner des responsabilités à vos enfants dans la famille, dans des choses qui conviennent à son état et qui lui font, on pourrait dire, rendre un peu, lui qui a tout reçu jusqu'à présent, eh bien, à cette famille qui est la sienne. Donc l'éducation ne forme pas simplement un individu, une personne, ce serait faux, elle éduque aussi le membre d'une société, donc un citoyen au sens noble du terme, le membre d'une société. Et c'est à la fois en tant que citoyen de la société familiale, civile, mais aussi, bien sûr, de l'Église. Et cette éducation, elle est simultanée. Encore une fois, il ne faut pas se dire je fais d'abord l'éducation de la famille, en tant que membre de la famille, ensuite il apprendra par les contacts avec la vie sociale à vivre dans la vie sociale, et puis après, vie civile, et après, il apprendra à vivre pour l'Église. Bien entendu, tout se fait en même temps, et les réalités se interfèrent les unes les autres. Alors de quoi a-t-il besoin cet enfant? Puisqu'il est né avec une nature rationnelle, il est social, eh bien, il a plusieurs besoins, et ses premiers besoins, bien sûr, sont d'ordre physique. On peut les prendre dans l'ordre, dans le physique. Donc son corps doit être protégé. Son intelligence, pourquoi est-elle faite? Pour la vérité. Donc nous avons juste un besoin, il faut lui fournir la satisfaction de ce besoin. Vous devez donc lui donner les moyens d'avoir la vérité. Non pas de la chercher, mais de la trouver. Ça n'est pas la même chose. Sa volonté doit être portée au bien, mais on sait bien que l'intelligence comme la volonté sont blessées. Donc, ça ne va pas se faire tout seul. L'intelligence ne va pas trouver facilement la vérité, même si on la lui donne, on pourrait dire, facilement. La volonté ne se portera pas facilement vers le bien. D'où, eh bien, tout un ensemble de choses qui, dans une éducation, sont faciles à comprendre. Des certaines contraintes, des encouragements, des leçons, des modèles à donner, tout cela fait l'éducation. On indique qu'une chose doit être faite, parce que, et pas forcément en expliquant tout, il y a des âges où on pourra expliquer, plus la raison est développée, plus l'explication se justifie, mais dans un premier temps, l'éducation se fera sans explication. Vous n'avez pas à expliquer à votre bébé que le biberon qu'on lui met dans la bouche a un grand bienfait pour son développement et pour prendre du poids. Donc, et ça, vous ne vous posez pas la question. Alors que vous lui parlez, par ailleurs. Les mamans parlent à leurs enfants sans que leurs enfants puissent comprendre parfaitement ce qu'ils leur disent. Et dans le domaine spirituel, et bien là, brusquement, non seulement on ne donne pas le biberon, mais on lui dit, on t'attendra pour comprendre que tu as besoin d'un biberon spirituel. Et on attend souvent trop longtemps pour les éduquer religieusement. Alors qu'il est si simple, et là vous connaissez peut-être mieux que moi, pour les mères en tout cas, ces moyens qui sont simples pour donner le bon Dieu aux enfants. C'est un signe de croix qu'on lui fait faire intégralement, même s'il est tout petit. C'est une statue de la Sainte Vierge qu'on lui indique en donnant le nom. C'est le Jésus sur la croix. C'est de voir ses parents, tout simplement. Alors qu'il est dans son couffin, dans son berceau, il voit ses parents qui font quelque chose qu'il ne comprend pas, bien entendu. Mais, et puis qu'il entend, prier, ou il les voit à la messe. Alors il voit plutôt ses parents que l'autel, mais c'est normal. Et puis voilà, c'est une éducation par l'exemple, c'est une éducation dans le temps, une formation de l'intelligence et de la volonté pour le bien et dans la connaissance des choses de Dieu qui se fait très naturellement. Donc cet enfant a une volonté qui doit être portée au bien, et une sensibilité aussi qui doit être éduquée. N'oubliez pas, c'est pas simplement un cerveau et un moteur de volonté, c'est aussi une sensibilité. Et cette sensibilité doit être guidée, doit être réglée, parce qu'elle est aussi victime du péché originel, faut pas l'oublier. Donc c'est une sensibilité qui pourra avoir tendance à se satisfaire trop facilement. Gourmandise, et puis plus tard, sensualité, ou des choses comme ça. Bon, donc tout cela doit être réglé, doit être éduqué. Encore une fois, avec des règles, donc des interdits, mais posés intelligemment. Et puis, quand on peut, quand l'intelligence se peut, des explications. Des contraintes, des punitions et des encouragements. Des encouragements au bien. Donc l'enfant a besoin de guides pour connaître ce qu'est la notion d'autorité. Et il ne discute pas cette autorité, il apprend à connaître l'autorité divine à travers l'autorité des parents. De même qu'il apprendra à connaître l'autorité divine à travers l'autorité d'un maître, d'un enseignant. Toute autorité vient de Dieu, nous dit saint Paul, et c'est très vrai, ce qui veut dire qu'elle est le reflet qui permet à l'enfant de savoir qu'il a un père au ciel, qu'il a un père qui gouverne le monde. Gouverne au sens vraiment de diriger, d'éduquer, de pourvoir au bien. Eh bien, il doit le retrouver dans ses parents. Alors, ce sera à des degrés divers et selon des modes divers entre le père et la mère, par exemple, mais ce sera une autorité, ce sera ce de quoi il dépend. Et la notion de dépendance est fondamentale. L'enfant doit découvrir qu'il dépend d'autres que lui. Parce qu'une des conséquences du péché originel, c'est tout simplement cet esprit d'indépendance qui a marqué Lucifer et qui a marqué Adam et Ève. On veut être par soi. Monseigneur Lefebvre, vous avez entendu quelques conférences, et il y en avait une qui était avec la fameuse expression qui m'a dû un petit peu vous surprendre au début, « ens ace et ens abalio ». Bon, alors « ens ace », un être par soi, un être qui vit par soi, ça ne peut être que Dieu. Il n'est pas causé, il n'a pas d'origine hors de lui-même. Bon, ben c'est Dieu. Et puis « ens ab alio », c'est-à-dire un être par un autre, c'est tout ce qui est créé, qui ne tire pas son origine de lui-même. Et c'est le cas de nous tous. Nous sommes tous des êtres, des « ens ab alio », des « entes ». Alors, il faut se dire que, eh bien, puisque cette dépendance, il aura tendance à la refuser, parce que les conséquences du péché originel, c'est de se dire « mais non, je suis par moi-même, et puis je m'appartiens, plus tard ce sera mon corps m'appartient, etc., j'en fais ce que je veux, je vais où je veux, je fais ce que je veux ». S'il n'a pas appris à découvrir cette autorité, cette dépendance envers ses parents, non pas une dépendance simplement matérielle, nutritionnelle, hein, c'est beaucoup plus que cela, c'est apprendre qu'on ne s'est pas fait tout seul et que nous devons ce que nous sommes et ce que nous avons à d'autres. Voilà ce que c'est cet esprit de dépendance. Et ça suscite normalement la reconnaissance. Quand on donne dans le quatrième commandement de Dieu, on a fait examiner tout ce qui est du devoir filial, des devoirs filiaux. Eh bien, c'est cela. L'enfant a ce devoir de reconnaissance, de respect, de soumission envers ses parents et de soutien lorsqu'ils seront âgés, parce qu'il a tout reçu d'eux. Et ce que l'on a reçu est reçu définitivement. La vie naturelle qui a été donnée par les parents, on l'a définitivement, même si on mourra, mais c'est bien reçu des parents. Tout ce qu'ils nous ont donné, depuis les soins d'ordre matériel jusqu'aux soins plus intellectuels, l'éducation, la culture, et bien sûr la vie de la grâce qu'ils ont favorisée, qu'ils ont permise, tout cela vient des parents. D'où la nécessité d'une reconnaissance qui ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas dire, oh, c'est bon, maintenant, à partir de tel âge, on estimera que les enfants auront suffisamment dit merci. Ce n'est pas possible, puisque tout ce qu'ils sont en tant qu'adultes, même, ils le doivent à leurs parents. Et on sait bien que l'essentiel de nous-mêmes, y compris dans notre caractère, vient de la façon dont on a été éduqué. Alors avec du bien ou du mal, hein, c'est avec des faiblesses, mais c'est à nos parents que nous le devons. Donc c'est vers eux que nous devons reconnaître notre dépendance première. Et puis bien sûr, au-dessus d'eux, Dieu. Donc il a besoin, cet enfant, de guide, d'une autorité, il a besoin de modèles. Ces modèles qui, comme je le disais tout à l'heure, vont vivre autour de lui et marquer son propre agir. Ce qu'il verra faire, ce qu'il entendra dire, il le refera, il le redira. Et vous le savez bien, pour vous comme pour les enfants. Donc, les modèles, il faut... C'est nous. C'est quand on a des enfants devant nous, c'est nous les modèles. Alors bien sûr, on peut parler d'autres personnes, on peut leur donner des exemples de vie de saint, etc., bien sûr. Mais les premiers modèles, les premiers exemples, c'est ceux qui sont à côté d'eux. Donc, c'est stimulant aussi pour ceux qui éduquent. Il a besoin de connaître sa fin, et il faut la lui indiquer. Il a besoin de faire des efforts et de mieux manier, de mieux utiliser sa liberté, et il faut l'éduquer. Il a besoin de la grâce, il a besoin donc de Dieu. Et tout cela, ce sont ses besoins, parce qu'il est un être humain créé à l'image de Dieu et destiné, dès lors qu'il sera baptisé, à la vie éternelle. Alors, ces guides, donc, ce sont les parents. Ces modèles, eh bien, ce sont les parents. Et la finalité, eh bien, elle est donnée par Dieu et elle est la même pour nous tous. Alors, le rôle des parents, vous allez me dire, mais où sont les écoles dans votre discours ? J'y viens. Le rôle des parents, c'est bien de donner toutes ces réponses à ses besoins, plutôt tout satisfaire tous ses besoins. Alors vous voyez, le mot satisfaire ses besoins est à prendre dans le sens que j'indique, hein, et non pas dans la réponse automatique à tous les caprices de l'enfant. Hein, attention. Donc il va falloir choisir pour notamment la sensibilité, le goût du vrai, le goût du beau, et pour l'intelligence, bien, il faudra choisir eh bien, les loisirs, choisir la décoration d'une maison, choisir ce qui lui servira de tous ses jouets, etc. Il faudra qu'il ait un sens du beau que vous éduquerez pour sa sensibilité. Ne l'oublions pas. Son éducation, l'éducation de son imagination passe par ce que vous allez lui mettre entre les mains. Les décorations de la maison, encore une fois, ou l'ensemble des choses qui, visuellement, auditivement, vont le conduire à aimer un certain nombre de valeurs artistiques qui doivent être des reflets d'une beauté invisible qui est Dieu. Mais nous le savons bien, bon, c'est la question de l'art qui est importante aussi dans l'éducation d'un enfant. Il faut cultiver pour lui cet esprit d'enfance, je le disais. Voilà le rôle des parents, cet esprit de dépendance, j'en ai parlé, de confiance. L'esprit d'enfance, c'est à la fois l'esprit de dépendance, mais c'est aussi la grande confiance. Que Dieu, dont on dit qu'il est miséricordieux, que Dieu, dont on dit qu'il est père, est un peu comme ses parents, en sachant qu'il l'est bien plus. Mais les parents doivent être le reflet de Dieu. L'autorité qu'ils ont sur leurs enfants, c'est une autorité reçue de Dieu pour ressembler à Dieu. Voilà un petit peu la ligne directrice des parents. Notre Seigneur le dit dans l'Évangile, « Laissez ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. » Voilà comment prendre soin des enfants parce qu'ils appartiennent à Jésus. Ils sont ceux à qui il ressemble le plus, j'inverse la phrase volontairement. Autrement dit, les enfants doivent être de cet esprit d'enfance de notre Seigneur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont vous connaissez sans doute la vie et la spiritualité, eh bien, a vécu de cette spiritualité, de l'esprit d'enfance, et elle est un modèle pour éduquer justement les enfants. Parce qu'elle nous montre bien, alors en tant qu'adulte même, c'est tout à fait utile, ce qu'est cette dépendance, ce qu'est cette confiance envers l'autorité. C'est pas une crainte servile. Et il ne faut pas donner de crainte servile aux enfants. Il ne faut pas susciter, disons, de crainte servile qui longe les murs et qui craignent le coup, etc. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas donner de coups, c'est pas la même chose. Mais les châtiments sont parfois nécessaires et il faut les utiliser. Mais il faut qu'il y ait en même temps ce sens de la justice et de la miséricorde qui sont les attributs de Dieu. Les parents doivent être le reflet des attributs de Dieu. L'acquisition des vertus, naturelles et surnaturelles, bien sûr. Alors là, c'est le rôle des modèles, je l'ai dit. Et en même temps, les former en prenant soin à corriger celles qui ne sont pas acquises et celles qui sont défaillantes. Donc, hein. C'est ça, corriger les défauts d'un enfant. C'est le lui dire quand il a l'âge de le comprendre. Attention, là, c'est tel défaut que tu es en train de t'abîmer par là. Et si tu ne te corriges pas, eh bien c'est une faille, c'est une fissure qui sera de plus en plus grande dans l'édifice de ta vie. Et puis, si ça suffit pas l'explication, ben, il faut lui mettre des contraintes pour qu'il comprenne que ce défaut ne doit pas gêner les autres, parce qu'il gêne non seulement les autres, mais il se gêne lui-même, hein, il s'abîme lui-même. Donc tout cela doit être donné par les parents, mais nous le savons bien, tout ne peut pas être fait par les parents, et il y a cette nécessité des écoles, la voilà l'école. Et cette mission de l'école, c'est la même que celle des parents, c'est pour ça que ça ira très vite. Celle de l'école est le prolongement de celle des parents. Alors ça arrive que celle des parents soit défaillante. Alors il ne faut pas que pour autant l'école ait aussi sa mission qui soit défaillante. Donc n'importe quelle école fera l'affaire, puisque de toute façon, à la maison, c'est déjà pas très beau. Il est évident non plus qu'on ne pourra pas compter sur une école, une bonne école, si à la maison, l'éducation est totalement défaillante. Il ne faut pas croire au miracle d'une bonne école. C'est moi qui vous parle. Et alors évidemment, on peut faire du bricolage, on peut faire améliorer un petit peu l'enfant, mais c'est du bricolage, malheureusement. Et ça lui servira, bien entendu. Mais l'enfant sera globalement mal éduqué, bancal, si on peut dire. Alors, le problème de cette école, c'est qu'il faut bien la choisir. Puisqu'elle doit correspondre à tout ce que j'ai dit pour les parents, et elle doit être rigoureusement le prolongement de tout ce que j'ai dit pour les parents, eh bien, il y a des conditions qui doivent être respectées pour le choix d'une école. Alors, lesquelles ? Mais bien sûr, il faut qu'elle donne à l'intelligence la vérité, puisque l'enfant a besoin de la vérité pour son intelligence. Donc, il ne faut pas d'une école, c'est incompatible avec cette éducation de l'enfant, que l'école ait pour point de vue de départ un relativisme sur la vérité. Chacun cherche et trouve sa vérité comme il l'entend, il ne faut pas forcer, etc. Mais il ne s'agit pas de forcer, il s'agit d'indiquer ce qui est vrai. Quand on a trouvé la vérité, ce n'est pas la peine de s'encombrer, de s'empêtrer dans l'erreur, c'est absurde. Une fois que quand vous cherchez votre chemin, si vous promenez demain dans le village de Flavigny, vous cherchez, je ne sais pas moi, l'abbaye où se vendent les bonbons d'anis, eh bien, une fois que vous avez trouvé où est l'abbaye, vous n'allez pas faire le tour, ou si vous faites le tour, c'est pour d'autres motifs, mais pour par plaisir de chercher. Quand on a trouvé, on n'a pas besoin de chercher. Donc, quand on a trouvé la vérité et qu'on la connaît, et qu'on la possède, eh bien, on la donne. Et on ne laisse pas une personne se chercher en disant, bah oui, il faut qu'il vienne, il est dans sa phase de recherche, il faut qu'il trouve l'abbaye, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est pas la peine de... Alors, vous comprenez bien que pour des choses graves comme la vérité sur Dieu, sur les vérités philosophiques, eh bien, il est évident que c'est aussi grave de donner une école qui ne prétend surtout pas toucher à la question de la vérité, parce que c'est une affaire personnelle, que de laisser tourner une personne dans le village pendant une heure. Et c'est bien plus grave. Donc pas d'école où on apprend le relativisme sur la vérité, où on n'apprend pas finalement à penser, mais à ingurgiter une pensée unique, cette fois. Il faut apprendre à penser, mais à penser le vrai. On ne pense pas. Penser, ce n'est pas une activité comme ça. On pense à quelque chose, et on ne peut penser que pour le vrai. On n'arrive pas tout de suite, conséquence du péché originel, mais on doit toujours s'en rapprocher. On ne doit pas non plus, pour cette intelligence de l'enfant, avoir une école qui soit uniquement fondée sur l'utilitarisme, c'est-à-dire sur ce qui est efficace, ce qui va rapporter de l'argent, ce qui va donner du succès, ce qui va être brillant. Non, l'intelligence étant faite pour le vrai, elle doit être formée à la contemplation. Et la contemplation de la vérité ne rapporte rien. Hein, c'est la philosophie, faire de la philosophie, ça ne vous rapporte pas grand-chose. Alors là, on peut être professeur de philosophie, mais c'est une façon de gagner sa vie, bien entendu. Mais en soi, l'activité même n'est pas productrice de quoi que ce soit. Voyez ? Donc, il faut apprendre à cette intelligence à fonctionner pour s'élever vers l'intelligence incréée qu'est Dieu. Et donc, que l'intelligence s'habitue à fonctionner, non pas pour un résultat concret, mais pour une jouissance de la contemplation du vrai. Et là, je suis au niveau philosophique, pas simplement, pas surnaturel. Hein. Et ça, donc, c'est pas facile d'avoir des écoles qui sont justement aussi tournées vers apprendre à penser et apprendre à contempler. Il ne faut pas, bien sûr, d'une pédagogie qui prétend se passer de maître, d'autorité, de docilité. Alors, vous avez peut-être vécu ça dans certains systèmes, ça date de très longtemps, mais enfin, depuis les années 60, c'est quand même largement... Ça a largement dominé, avec des hauts et des bas, avec des abandons, évidemment, quand la catastrophe est arrivée. Les écoles où on fait uniquement ce que l'enfant veut faire, ce qu'on... Les fameuses écoles de Summerhill, en Angleterre, où l'enfant est une grande propriété, il rentre dans l'école uniquement quand il veut, donc il passe évidemment les trois quarts du temps dans le jardin. Et puis, il faut qu'il rencontre un enseignant, mais qui ne va pas s'imposer à lui, parce que ce serait surtout, comment dire, aller à l'encontre de sa créativité, de sa sensibilité, de son... Bon. Il y a des choses dont on est revenu, et puis il y a des choses qui sont reprises constamment, avec sous des nouveaux noms. Vous savez que l'éducation nationale, par exemple, est très créatrice de noms extraordinaires pour des réalités toutes simples. Eh bien, donc, pas de pédagogie qui soit à l'encontre de l'enfant, et qui prétende que parce qu'il est naturellement bon, eh bien, il va apprendre naturellement bien. C'est faux. Il faut une contrainte, il faut un effort. On n'apprend pas sans difficulté, même s'il y en a qui sont doués, qui ont des facilités. C'est le lot du plus grand nombre que d'apprendre le vrai avec difficulté. Et puis, il ne faut pas d'une école où, toujours pour cette intelligence, on ne favorise pas l'analyse, la décomposition des actes, du raisonnement. Il faut apprendre. Alors bien sûr, tout ça, c'est une question d'âge. Ce que je vous dis, c'est pas pour la maternelle, mais il y a néanmoins une école, il y a des écoles qui, vous le savez bien, qu'on parle de la méthode globale, qu'on parle de l'absence d'analyse grammaticale dans les enseignements du français, etc. Tout ça, ce sont des méthodes qui ont comme conséquence des choses qu'on voit qui sont mauvaises. Mais on ne voit pas trop pourquoi c'était mauvais, et on va être capable de dire l'institutrice étant bonne, ou le professeur étant bon, ça me suppléera. Non, c'est l'intelligence qui aura été abîmée par un manque d'éducation de l'intelligence elle-même. Et puis, bien sûr, il ne faudrait pas que l'école donne une fausse conception de la vie commune, dans la vie sociale. Donc, la question de la liberté, la question de l'égalité, si on croit qu'on est tous égaux. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on est tous égaux? Non, on n'est pas tous égaux. Alors, il y a une certaine égalité. Nous avons une certaine égalité. Nous allons tous mourir. Voilà, ça, c'est une égalité. Bon, il y en a quelques autres. Mais globalement, on n'est pas tous... On n'a pas tous les mêmes acquis. On n'a pas les mêmes intelligences. On n'a pas les mêmes vertus. On n'a pas le même âge. On n'a pas... Même si dans une classe, ils ont tous le même âge sur le papier... Ils sont tous différents. Et cette prétention à des droits parce qu'on est tous égaux, etc., vous voyez tout ce que je veux dire par derrière, c'est cela qui influe la formation de l'enfant et lui fait croire qu'il aura donc les mêmes droits, une espèce d'exigence, déjà au plus petit âge, de droits qui sont liés, soi-disant, à un régime de moule. On est tous moulés sur le même moule et on est tous formés, et tout cela est mauvais pour le plus tard, parce qu'il y a une fausse notion de la liberté, de la nature de l'homme, tout simplement. Par rapport à la volonté, il faudra que l'école lui donne, comme les parents, le sens de l'effort, l'éducation des vertus, et puis un bon exemple, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il ne faudra pas une école où il y aura une immoralité ambiante. De même que ça peut arriver qu'on supprime, qu'on ôte un enfant à des familles indignes, parce que le comportement des parents est complètement indigne et immoral, eh bien on ne peut pas envisager de mettre un enfant dans une école où il y a une immoralité ambiante. Soit dans le laisser-faire des autorités de cette école, soit dans les enfants eux-mêmes, dans la pratique, dans la corruption morale des enfants qui y sont. Alors évidemment, quand on pense à ça, on pense au problème de la drogue. Bon, mais il n'y a pas que la drogue. Il y a la drogue, en tout cas. Alors pas dans nos écoles. Mais pas loin. Mais pas loin. Hein. Attention. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Nous sommes dans une société, j'allais dire de drogués, c'est quand même un peu sévère, mais la drogue est omniprésente. Et ce n'est pas uniquement sur Paris. C'est pas uniquement sur Paris. Hein. Et c'est tellement... Et c'est évidemment à des âges où, il y a 50 ans, on n'aurait pas imaginé qu'elle se trouve. Certains de nos enfants dans les internats peuvent être accostés dans le train, dans les gares, etc. C'est arrivé, faut pas se leurrer. Hein. Alors faut pas se dire, bon, alors si c'est ça, on fait uniquement l'école chez soi. Bon, J'ai rien contre l'école chez soi. Hein, donc, si on est capable de la faire au moins jusqu'au primaire, c'est bien. Mais en tout cas, vous voyez, c'est pas ça qu'il faut voir. C'est de se dire, je sais que t'es à l'école, il y a des problèmes de morale, donc je m'interdis de mettre mon enfant. C'est incompatible avec son devoir de parent. On ne peut pas se dire, oui, mais il y a de bons professeurs, oui, il y a de bons résultats au bac, oui, c'est à côté de chez moi, donc j'ai pas envie d'aller plus loin. C'est criminel. C'est criminel parce qu'on sait que les dangers sont là, et on met quand même les enfants. Vos enfants. Et ce sont vos enfants dont vous rendrez compte à votre jugement particulier, ne l'oubliez pas. Donc il y a ce choix qui doit se faire pour une école qui est à la fois d'un agir et d'une pensée. Je reprends, l'agir c'est la volonté, la pensée c'est l'intelligence. On ne peut pas se dire les résultats sont bons donc on y va, ça ne suffit pas. Peut-être que les résultats sont bons, mais combien d'enfants sont allés dans des bonnes écoles, des boîtes à bac ou pas à bac, mais qui sont des bonnes écoles réputées, publiques ou privées sous contrat, et qui en sortent n'ayant plus la foi. Pourquoi? Et je viens à l'essentiel, parce qu'on a eu une école sans Dieu. On a eu une école sans Dieu, on a eu une école où Dieu était éventuellement saupoudré le mercredi après-midi en apprenant à faire un gâteau au chocolat et à, de temps en temps, à respecter donc autrui et à s'intéresser aux enfants qui meurent en Afrique. Mais on n'a pas appris à vivre avec le bon Dieu. Et dans ces écoles, y compris catholiques de nom sous contrat, souvent, on a une formation qui est beaucoup trop légère. Pourquoi? Parce qu'on l'a mise dans un créneau horaire, cette formation chrétienne. Voilà le problème. Si on met le bon Dieu dans un créneau horaire, ça n'est pas une instruction religieuse, ça n'est pas une éducation chrétienne. Vous-même, dans vos familles, si vous voulez, si vous êtes pratiquante, et vous l'êtes puisque vous êtes là, vous ne mettez pas le bon Dieu dans un créneau horaire. Je dis bien entendu, vous priez plus spécialement à certaines heures de la journée. Mais vous êtes chrétienne constamment. Or, ces enfants qui sont en formation, qui sont pas vous, qui sont en espèce d'imprégnation de tout ce qui les entoure et qui vont prendre évidemment le plus facile, s'ils ont le bon Dieu à des horaires, alors au mieux, ils l'accepteront et ils le goûteront à ces horaires. Mais tout le reste du temps, ils n'ont pas le bon Dieu. Il n'y a pas un crucifix qui leur indique que le bon Dieu est toujours là. Il n'y a pas un prêtre dans l'école qui leur indique, soit par sa présence, soit par ses cours, que ben, le bon Dieu, c'est plus qu'une idée, c'est une vie, etc., etc. Donc d'avoir mis un enfant où le bon Dieu est au mieux mis dans un horaire, eh bien, ça n'est pas cela qui va le former chrétiennement, l'enfant. Et le problème, il est là. La question religieuse et de l'école, elle est là. Elle est là. Si vous confiez vos enfants à une école, c'est parce que vous ne pouvez pas assurer la totalité des enseignements, et ça c'est tout à fait normal, mais en même temps vous exigez, et vous êtes en droit d'exiger, que l'école fasse ce que vous ne pouvez pas faire, mais que vous voudriez bien faire si vous le pouviez. Et donc l'école assure l'éducation chrétienne de vos enfants. Tout autre type d'éducation est inconcevable, puisque rappelez-vous le temps que les enfants passent à l'école. 30 semaines sur 52, en gros. 30 semaines sur 52, ça veut dire qu'ils vous échappent pour leur grande part. Et surtout sur ces semaines, c'est quand même l'essentiel de la journée, parce qu'il y a au moins entre 8 et 10 heures où ils sont absents de l'école, de la maison. Alors, ce choix de l'école est évidemment... Là, je fais les grands principes. Après, dans l'application pratique, il peut y avoir des difficultés, bien sûr, de proximité d'école. Mais attention aussi. Souvent, c'est le refus du sacrifice, de l'éloignement de l'enfant qui fait qu'on cherche la facilité à le mettre dans une école qu'on sait être pas bonne. Alors, on se rassure en disant qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'on compare avec une pire, mais on ne fait pas de l'éducation comme ça. Et C'est souvent, donc, parfois... Et puis, nous sommes dans une société qui a complètement... L'éducation, le système éducatif est complètement détruit. Donc, forcément, les bonnes éducations est rare. Alors, forcément, ça peut impliquer des sacrifices. Il y a la question financière, bien entendu, qui est un réel obstacle pour certaines personnes. Et ça, c'est vrai que... Mais vous savez très bien que dans nos écoles, les arrangements sont toujours possibles. Il suffit de montrer un minimum de bonne volonté et d'honnêteté, et ça, c'est toujours la possibilité, après, de s'arranger. Un ancien directeur d'école me disait que il y a des personnes qui s'étaient engagées à régler pendant 15 ans la scolarité de leurs enfants, et donc des personnes qui, actuellement encore, remboursent petit à petit la scolarité de leurs enfants. C'est beau, c'est juste, et... Ces personnes auraient très bien pu s'arranger et on leur aurait fait des arrangements. Oui, ces personnes qui se disent non, moi je veux que mes enfants et je veux assurer le financement des études. Alors bien sûr, l'aspect financier peut être un obstacle, la géographie, la localisation des écoles. Mais attention, est-ce que vraiment ces obstacles sont infranchissables? C'est ça la question qu'il faut se poser par rapport au but que vous avez de sauver l'âme de vos enfants. Et je crois qu'il faut faire tomber un certain nombre d'objections qui sont courantes dans nos milieux, je suis bien placé pour le savoir, et qui sont malhonnêtes intellectuellement. Elles sont malhonnêtes intellectuellement, c'est pour éviter la difficulté, c'est par facilité, il faut le reconnaître, que certains choix de mauvaises écoles sont faits. On va se dire, oui, mais en le mettant dans une école... qui n'est pas bonne, soit publique, soit privée sous contrat, mais sans aucune éducation religieuse ou superficielle, au moins il apprendra ce qu'est le monde, ce qu'est il apprendra à se former l'esprit critique, notamment, etc. Avec quels outils ? On apprend beaucoup mieux à avoir un esprit critique dans une école où on vous forme complètement, chrétiennement, que là où on vous gave d'erreurs sans contrepartie de vérification. On ne peut pas vérifier si tout ce que nous dit le professeur de philo, de français, d'histoire est juste, parce qu'on n'a pas d'autre source. On est à l'école pour apprendre. Donc on ne va pas aller à une autre école pour apprendre si la première école nous a bien enseigné. Et pourtant, c'est ce qui se produit. L'enfant ingurgite. Alors il y a les parents derrière, vous me direz. Mais les parents, est-ce qu'ils sont formés sur toutes les questions? Non, premièrement. Deuxièmement, est-ce que l'enfant systématiquement... dit, tiens, on m'a parlé de ça, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai? Et puis vous vous rendez compte que poser à l'enfant l'obligation de remettre en cause systématiquement l'enseignement qu'il a reçu, intellectuellement, c'est là où vous faites des schizophrènes, où vous divisez l'intelligence, voyez? Alors bien sûr, ça peut être fait, mais à quel prix? C'est une fausse objection. Et on forme beaucoup mieux une intelligence dans le bien, et après elle est beaucoup plus apte à voir, par esprit critique, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ça, c'est évident. Hein. Deuxième objection, on risque d'éduquer nos enfants dans un cocon qui les empêche de rentrer dans le monde une fois qu'ils sortent des écoles catholiques, vraiment catholiques, avec des prêtres ou des religieuses. C'est aussi faux. Où est la séparation du monde? Elle est dans votre tête, enfin dans la tête de ces personnes qui ont ces objections. Ces enfants sont complètement dans le monde. Et ce n'est pas parce qu'ils auront eu 6, 7, 8 heures d'éducation ou 15 jours dans une pension, ou 3 semaines tout au plus, dans une pension, qu'ils ne connaissent pas le monde. Et quel est l'intérêt de connaître le monde, comme on dit? Parce que c'est tout le problème des termes. Ce monde, en quoi il a un avantage à le connaître? Si c'est de connaître... je ne sais pas moi, le code de la route, la géographie, etc., bien sûr qu'il va l'apprendre tout ça. Il n'en est pas coupé du tout. Si c'est d'en apprendre toutes les turpitudes, d'en apprendre tous les mauvais modes de vie, etc., quel est l'intérêt de le connaître? Et ben, on va dire, oui, mais quand il va le découvrir, il va tomber de haut, ou elle va tomber de haut, et ça va être un choc, etc. Pas du tout. Depuis quand l'éducation morale enseignée dans les écoles fait abstraction du mal qui nous entoure? Bien sûr qu'on fait découvrir, mais qu'on ne fait pas découvrir le mal, mais en montrant le bien, on fait comprendre que ce qui n'est pas ce bien, c'est un mal. Et en même temps, on n'a pas à connaître le catalogue complet des turpitudes du monde pour s'en prémunir. Sinon, ça voudrait dire que le médecin qui voudrait soigner les maladies devrait toutes les avoir eues avant pour mieux les soigner, en disant, moi, je sais de quoi je parle. C'est un peu la même chose. Il y a une idée fausse là-dessus. Le contact avec le monde, c'est une idée fausse. Il y a un contact avec le monde. Et parfois, il y a trop de contact avec le monde mauvais, dans son aspect mauvais du monde. Il ne s'agit pas, encore une fois, de vivre sur des îles désertes. Ce n'est pas du tout mon propos. Il s'agit de se dire que nous devons aller au ciel. Parce que nous devons aller au ciel, nous avons à prendre des moyens pour nous protéger de ce qui nous en empêche. Et c'est ça. Et dans le monde actuel, encore plus qu'avant, il y a plein de moyens qui nous empêchent d'aller au ciel. Alors le but, c'est quoi? C'est de faire le catalogue de ce monde, de ces obstacles, de les connaître, d'y avoir essayé, d'y avoir goûté, ou c'est d'aller au ciel? Le problème, il est simple. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir parce que une école sans Dieu, une école où Dieu, encore une fois, est compartimenté et relégué dans un coin ou dans un horaire, c'est d'emblée contrarier la finalité de l'enfant. Et donc compromettre l'obtention de cette finalité. Autre objection, je termine bientôt. Le catéchisme va être enseigné dans la paroisse tradie du coin. Donc, pas de problème, je peux me permettre de mettre l'enfant dans une école où il n'y a pas d'enseignement religieux. Alors, c'est vrai que parfois, il vaut mieux une école où il n'y a pas du tout d'enseignement religieux qu'un enseignement tordu, moderne, si vous voulez, qui ferait perdre la foi ultimement. Mais le problème n'est pas là. Combien d'heures vous allez le mettre dans le bon catéchisme tradit de votre paroisse? 2 heures par semaine maximum. Je pense qu'il n'y a aucun prieuré, même la fraternité, qui fait plus, parce qu'on ne peut pas faire plus. Et ce qui est déjà bien, 2 heures. Il n'y a peut-être qu'une heure pendant certains. Bon. 2 heures sur combien de semaines? Faites le calcul. Eh bien, admettons les 30 semaines de l'année scolaire, parce qu'il n'y a pas de catéchisme pour les vacances, et c'est normal. Bon. 30 semaines multipliées par 2, je fais les gros chiffres, là, hein, je gonfle. Ça fait 60 heures. Sur ces 60 heures, vous le savez très bien, ce n'est pas 2 heures de catéchisme. C'est 1 heure de catéchisme, possibilité de se confesser, enfin, je vois par rapport à Saint-Nicolas, par exemple, 1 heure de catéchisme, un temps pour se confesser, du chant, de temps en temps une messe. Bon, ce n'est pas 60 heures, donc on n'est déjà pas aux 60 heures. 60 heures sur 1 an, ça fait peu d'instruction religieuse. Alors peut-être que les parents ne peuvent pas donner cette instruction religieuse, et ça, c'est pas à leur reprocher, c'est à eux d'essayer de se raccrocher s'ils n'ont pas reçu eux-mêmes, donc c'est pas la question. Mais c'est pas l'école, et c'est pas non plus tellement le petit catéchisme de fin de semaine qui suffira. C'est pas possible de se dire « j'ai donné suffisamment d'instruction religieuse à mon enfant » quand on sait qu'il a reçu, allez, 50 heures par an d'instruction religieuse. Donc, il faut penser que c'est bien dans une école catholique, avec des prêtres ou des religieuses, que l'éducation chrétienne sera réalisée. Alors, évidemment, ce sont des choix parfois crucifiants, et il faut se rappeler ce qu'en disent les papes. Et je vous conseille de lire ou de relire l'encyclique de Pie XI sur l'éducation des enfants, vous connaissez sans doute, qui s'appelle Divini Ilius Magistri, qui est du 31 décembre 1929. Pie XII aussi a de beaux écrits, mais pas aussi longs que Pie XI. Donc, si vous lisez Pie XI, vous avez tout. Je vous lis juste un extrait, et je termine avec cet extrait. C'est pour vous rappeler que je ne prêche pas pour l'école Saint-Bernard ou pour les écoles de la fraternité ou pour les écoles dominicaines, mais pour des écoles qui sont catholiques et qui sont l'obligation pour les parents de mettre leurs enfants. Il ressort nécessairement que l'école dite neutre ou laïque, c'est Pie XI qui parle, d'où est exclue la religion, est contraire au premier principe de l'éducation. Donc pas d'école laïque. Une école de ce genre est d'ailleurs pratiquement irréalisable. Car en fait, elle devient irréligieuse. Et ça, c'est vrai, vous le savez bien. La laïcité, c'est un trompe-l'œil. c'est une illusion. On sait très bien qu'en soi-disant, en disant, bah oui, mais tout le monde est à égalité, puisque personne ne parlera de sa religion, c'est faux. C'est toujours contre le phénomène religieux. Alors même s'il y a un débat actuel qui est encore plus... pour dire vicieux, parce que il y a un regain de la laïcité dure face à une extension de la religiosité dure de l'islam spécialement, eh bien forcément c'est un débat qui est faussé, mais je ne rentre pas dedans. Inutile de reprendre ici tout ce qu'ont dit sur cette matière nos prédécesseurs, notamment Pie IX et Léon XIII, parlant en ces temps où le laïcisme commençait à sévir dans les écoles publiques. Donc Léon XIII surtout, et enfin les deux. Nous renouvelons et confirmons leurs déclarations, et avec elles les prescriptions des sacrés canons, donc des règles. La fréquentation des écoles non catholiques ou neutres ou mixtes, à savoir qui s'ouvrent indifféremment aux catholiques et aux non-catholiques, sans distinction, doit être interdite aux enfants catholiques. Nous sommes en 1929, à une époque où il y avait une floraison d'écoles, et en même temps où il y avait déjà ce danger de se contenter de l'école publique du coin. Elle ne peut être tolérée qu'au jugement de l'ordinaire, et c'est toujours valable. C'est le curé ou le prieur qui peut éventuellement dire, selon des circonstances très particulières, la décision qu'il faut prendre. Dans des circonstances bien déterminées de temps et de lieu et sous de spéciales garanties. Il ne peut donc même être question d'admettre pour les catholiques cette école mixte, plus déplorable encore si elle est unique et obligatoire pour tous, où l'instruction religieuse étant donnée à part aux élèves catholiques, ceux-ci reçoivent tous les autres enseignements de maîtres non catholiques en commun avec les élèves non catholiques. Autrement dit, là où on a mis le bon Dieu dans un créneau horaire, c'est ça. Ainsi donc, le seul fait qu'il s'y donne une instruction religieuse, souvent avec trop de parcimonie, ne suffit pas pour qu'une école puisse être jugée conforme aux droits de l'Église et de la famille chrétienne et digne d'être fréquentée par des enfants catholiques. Pour cette conformité, il est nécessaire que tout l'enseignement, toute l'ordonnance de l'école, personnel, programme, livre, en tout genre de discipline, soit régi par un esprit vraiment chrétien, sous la direction et la maternelle vigilance de l'Église, de telle façon que la religion soit le fondement et le couronnement de tout l'enseignement, à tous les degrés, non seulement élémentaire, mais moyen et supérieur. Je vous laisse lire la suite. Mais il y a surtout, que dans toute cette question des écoles, il faut se rappeler que vos enfants n'iront à l'école qu'une fois. Leur éducation se fera définitivement dans leur âge de leur enfance, bien entendu. De même qu'on apprend à lire qu'une seule fois, si ça a été mal fait, c'est extrêmement difficile de corriger après. De même que si notre éducation n'a pas été chrétienne pendant les 10-15 années de la...